Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
Bonjour à tous, 20 humoristes sur scène, des spécialistes du stand-up sous le toit d'une vénérable institution. Quand le Comedy Club prend le contrôle de l'Institut du Monde Arabe à Paris, ça commence mercredi prochain et dans la deuxième partie de l'émission, nous serons avec l'un des membres du joli casting cette année, le comédien Karim Duval. Mais pour l'heure, nous sommes en ligne avec une femme à qui l'art contemporain doit beaucoup. La culture, c'est son univers depuis toute petite. Fille de l'illustre peintre Hassan El Glaoui, fondatrice d'Un54, la foire d'art international consacrée à l'art contemporain africain. 54 pour les 54 pays qui composent notre continent. Bonjour Touria El Glaoui.
Bonjour David.
Vous êtes à l'origine de cet événement dont la première édition a eu lieu il y a exactement 10 ans à Londres. Je me souviens très bien du lancement de celle de New York en 2015. On l'avait couvert alors dans cette émission avec notre correspondant là-bas. Et puis donc Marrakech depuis 2018, 2019, 2020 et puis plus rien jusqu'à maintenant. Entre-temps, on a eu le Covid-19. Cette quatrième édition, c'est l'édition des retrouvailles.
Tout à fait, des retrouvailles avec la ville, avec nos collectionneurs locaux, mais aussi nos collectionneurs étrangers qui viennent visiter Un54 Marrakech.
Je suis tombé sur une interview que vous aviez accordée il y a 2 ans, c'était en février 2021, on était en pleine pandémie. Sur les images, vous êtes masqué, on vous demandait alors un mot pour vous qualifier, vous et votre équipe, et vous aviez répondu des combattants, des guerriers. Ça n'a pas été simple la pandémie, le secteur artistique a beaucoup souffert.
Bah, tout à fait, en fait, on a un peu été je me rappelle plus comment on dit, pardon, je ne voudrais pas dire ça, mais on a été un peu des disruptifs, en fait. On a essayé de créer un mouvement qui n'existait pas, et en fait, je pense à mon équipe souvent avec moi comme à des guerriers, parce qu'il n'y avait pas vraiment de référence à ce qu'on faisait. On savait que les artistes n'étaient pas du tout inclus du continent africain, de la diaspora africaine dans, on va dire, la narration globale de l'art contemporain. Donc, quand on a commencé, en fait, on était plutôt on savait que c'était très important ce qu'on faisait, mais ça n'avait pas été fait. Donc, il y avait toujours ce moment où il fallait un peu pousser les obstacles, pousser les barrières, essayer d'élargir un peu la vision des gens, que ce soit de l'industrie, en fait, en général, de l'art contemporain, à ceux qui sont plus académiques et qui écrivent, en fait, les publications pour l'art, parce qu'ils ne parlaient pas du tout de ces artistes-là. Donc, ça a été vraiment un mouvement, on a envie de dire un mouvement. Puis, c'était marrant parce que cette année, on a vraiment changé pour nos 10 ans les logos de 1,54. On a essayé de rafraîchir un peu toute notre image identitaire. Et pour faire ce travail-là, on a demandé à pas mal de gens qui connaissent la foire depuis 10 ans qu'est-ce qu'un 54 représentait pour eux, donc les galeries, les collectionneurs. Et beaucoup ont répondu ça, c'est un mouvement, c'est vraiment une ouverture sur l'Afrique, sur le monde de l'art du continent africain qui a été complètement ignoré. Donc même les gens autour de nous ont beaucoup décrit comme un mouvement.
L'idée, c'est de mettre en avant des artistes d'Afrique et de la diaspora. Cet événement, il leur est réservé parce qu'il ne l'était pas suffisamment représenté jusqu'à présent à l'international. Je crois que vous dites, on aura vraiment réussi le jour où 1,54 ne sera plus nécessaire.
Oui, j'ai souvent dit ça parce que c'est pas vraiment très commun, on va dire, d'une foire commerciale de penser à la fin de la foire, en fait. Mais la réalité, c'est que le monde de l'art est un monde curieux, donc les collectionneurs sont toujours assez curieux de découvrir des nouvelles choses. En fait, pour nous, ce qui est très important, c'est la continuité, qu'on continue à parler de ces artistes d'édition en édition. Et en fait, si on a participé au changement, c'est plutôt, en fait, par rapport à la régularité de la foire, la continuité de la foire sur 3 continents. Et ça n'a pas arrêté de faire parler de ces artistes depuis 10 ans. Et dans ces développements-là, il y a beaucoup de nos galeries qui ont été acceptées à des plus grosses foires que 1,54 internationales. Donc ces artistes maintenant sont présents dans, on va dire, le parcours international de l'art contemporain. Je pense que d'une façon ou d'une autre, nous ne sommes pas à un équilibre qui mérite que l'1,54 n'existe plus. Mais le jour où il y aurait un équilibre de ces galeries, de ces artistes dans ces grands événements internationaux, on sera toujours un incubateur et ça sera toujours, assez agréable de venir à 1,54, mais il n'y aura plus le besoin, de cet extra support pour l'essor de cette créativité du continent africain.
Touria El-Glaoui, parlons de cette quatrième édition qui s'annonce donc à Marrakech dans quelques jours, de jeudi à dimanche prochain. Une vingtaine de galeries participent, je crois. L'idée, c'est vraiment de représenter, de servir de vitrine pour tout le continent. Donc il y a des galeries du Maroc, bien évidemment, mais d'un peu partout en Afrique. Hein.
Par sa localité à Marrakech, comme quand on le fait à Londres ou en New York, on a effectivement un quota peut-être plus large de galeries marocaines qu'on aurait à Londres ou à New York. Mais nous avons 20 galeries, nous avons la chance d'être au sein de la Mamounia dans leur salle de bal, donc on est aussi limité par l'espace. Donc en fait, sur les 20 galeries que nous choisissons pour cette édition, malgré l'application et le formulaire d'application, la sélection que nous devons faire pour chaque édition de 1,54, nous essayons de choisir un parcours qui sera pour les visiteurs intéressants. Donc on essaie toujours d'avoir un équilibre d'abord entre les galeries venant du continent africain et les galeries internationales, mais représentant des artistes du continent africain de la diaspora, assez équilibré, parce que c'est pas toujours facile en fait la logistique dans notre continent, et on veut bien évidemment que le maximum de visibilité soit aussi accordé aux galeries qui font un énorme travail sur le continent africain. Donc on a 20 galeries parce qu'on peut pas en mettre plus malheureusement dans la salle des bals de la Mamounia, mais nous essayons toujours de pas entre le groupe de galeries qui revient tous les ans et celui qu'on essaie de renouveler chaque année, que ça soit toujours une nouvelle expérience en fait pour les visiteurs, que ça soit les collectionneurs qui nous voient trois fois par an parce qu'ils reçoivent quand même nos dossiers trois fois par an, à ceux qui viennent visiter pour la première fois la foire, d'avoir une sorte d'échantillon un peu riche du continent africain et ce que la créativité du continent africain de la diaspora représente aujourd'hui.
Ça se passe à la Mamounia, vous l'avez dit, c'est le cœur battant de cet événement, mais il y a aussi toute une programmation off. L'idée, c'est d'associer plusieurs lieux, le plus grand nombre de lieux culturels de Marrakech.
Oui, tout à fait. Et je dois dire que Marrakech est vraiment différent des trois foires par rapport à ce programme qui est à travers la ville. Nous ne faisons pas ça à New York et à Londres. On a un VIP programme, mais c'est beaucoup plus limité. À Marrakech, on essaie vraiment de fédérer, les plateformes culturelles qui ont un programme extraordinaire qu'on veut que nos visiteurs prennent l'opportunité de découvrir. Donc on a par exemple jeudi soir ce qu'on appelle le Gallery Night où tout le monde va voir les vernissages de toutes les galeries à Gélise, à Sidi Ghanem, à dans la Médina. Et on a aussi, bien évidemment, des moments clés dans chaque des fondations, des musées. Par exemple, on a le musée des Confluences qui nous fait visiter, qui nous fait une visite privée un des jours de notre programme. On a la Fondation Montresso qui nous fait aussi une journée bien spécifique pour découvrir ces artistes afro-américains. On a des points quand même centrales, le Makal aussi, qui a une exposition incroyable, cet artiste malgache qui va nous faire un moment très spécial avec des visites guidées par l'artiste, mais aussi un moment de performance un certain jour de la semaine. Donc pendant ces quatre jours, on veut que tout le monde puisse découvrir en fait les plateformes culturelles de Marrakech qui sont extraordinaires et qui méritent à être vues. Donc j'ai pas envie de parler de on et de off parce que c'est pas une biennale, mais on a vraiment un programme aussi riche qu'une biennale. Et si on va sur le site 1,54, on peut voir tout ce qui se passe à Marrakech sur le What's On la page Watson où on voit toute la liste des événements de Marrakech qui méritent vraiment d'être vus.
Vous avez cité le Makal, ce très 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 beau lieu, ce très bel espace d'art moderne et contemporain avec effectivement cet artiste malgache qui expose là-bas depuis quelques mois, la Fondation Montresso, Jardin Rouge, ce lieu absolument incroyable sur la route de Fès, tout à fait fascinant et très actif, on le sait, sur la scène contemporaine. Je crois aussi que le Palais Badi fait partie de la partie.
Oui, le Palais Badi a fait une très très belle exposition et il est dans le programme aussi. Et puis voir un lieu tellement historique avec de l'art contemporain est toujours un moment magique pour les visiteurs.
Et comme vous le dites, hein, plusieurs lieux dans Marrakech sont mobilisés pour la foire A54 qui va démarrer. Parmi ces lieux, il y a les étoiles de Jemaa el Fna avec cet événement littéraire qui va se dérouler simultanément avec la foire. Hein. Ça commence aussi de jeudi à dimanche, l'Afrique en toutes lettres, hein, montée par Mahi Binbin et quelques amis à lui.
Tout à fait, ça a été vraiment... Moi, j'ai été très contente que Mahi m'annonce qu'il fasse un festival du livre africain pendant A54. Le programme est exactement dans les mêmes jours que A54, donc Marrakech va être rempli de créatifs africains. Nous avons beaucoup d'artistes qui sont présents et lui a, je crois, plus de 40 écrivains qui sont présents pendant A54. Je pense que c'est vraiment... une très bonne idée de mélanger ces deux plateformes, en fait. On fait même un événement commun, je crois, aux étoiles le samedi, où on fait une discussion, je crois, qui s'appelle « Décoloniser la culture », où c'est un panel de discussion entre trois artistes africains et trois écrivains africains. Je crois que Mahi est un pied dans chaque, donc c'est lui qui va modérer la discussion. Mais je pense que c'est une très très bonne idée d'avoir ce moment fort de culture à Marrakech.
Un vrai bouillonnement donc le week-end prochain à Marrakech. On ne saura pas où donner de la tête avec tous ces événements. Une quarantaine d'auteurs effectivement annoncés pour ce dernier événement. On en parlait la semaine dernière dans Bain de Culture. On annonce notamment la venue d'Achille Mbembe, Le Clésio, Fouad Laroui, Yasmine Chami, Ali Ben Marlouf et bien d'autres. 1.54, la foire d'art contemporain qui revient à Marrakech de jeudi à dimanche prochain. Merci beaucoup, Touriel Glaoui, d'avoir répondu à ces questions dans cette émission Bain de Culture.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Midi, Bain de Culture avec David Labo.
On parlait d'un 54 qui démarre jeudi prochain à Marrakech. La veille à Paris, le lancement de Lima Comedy Club. Bonjour Karim Duval.
Bonjour David.
C'est la quatrième édition de cet événement consacré au stand-up à l'Institut du Monde Arabe. Vous en êtes l'un des piliers. Vous en êtes, je crois, votre troisième participation. Une vingtaine d'humoristes à l'affiche. Parlez-nous de cet événement, Lima Comedy Club. Il a une vocation de tremplin de faire connaître de nouveaux talents notamment.
Oui, ça c'est à la fois un tremplin et puis à la fois l'occasion de faire découvrir des artistes qui sont confirmés, que les gens ne connaissent pas forcément, mais qui sont déjà en place depuis longtemps, avec qui j'ai grandi, on va dire, avec qui je grandis encore. Je pense notamment à Jérémy Lorca qui présentera le gala d'ouverture ou des gens comme Kevin Razi qui sont plutôt très connus. Donc il y a vraiment de tout, mais c'est l'occasion en effet de mettre en avant des nouveaux talents aussi. Et comme Paris foisonne de plateaux de stand-up, là il y a un côté un peu plus institutionnel, un peu plus solennel de jouer à l'Institut du Monde Arabe. Donc ça donne une
ce côté un peu prestigieux. Vous n'y êtes pas indifférent. Effectivement, c'est un très beau bâtiment. On le doit à Jean Nouvel, oui, sur les rives, oui, de la Seine. Ça en impose.
Ça en impose. C'est vrai qu'on a l'habitude d'aller voir des expositions à Lima sur, que sais-je, moi, la littérature libanaise de 72 à 77. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des choses très, très pointues. En général, quand on va à Lima, et là, amener de l'humour dans ce lieu de culture, je trouve ça super et absolument pas incompatible. C'est vrai que c'est un domaine qui a de plus en plus le vent en poupe et où surtout les artistes s'expriment de plus en plus sur des sujets de société. Donc c'est une façon super intéressante de parler de notre monde autrement que par les œuvres ou la littérature. Et donc Lima s'est positionné depuis déjà 4 ans. Moi j'y ai participé plusieurs fois, je me souviendrai très bien de la première fois. parce que c'était à la sortie du Covid et on avait joué devant un tiers de salle parce qu'on n'avait pas le droit de jouer devant plus. Et ça m'avait fait un bien fou et les gens avaient vraiment besoin de rire. Donc j'ai gardé ces.
La salle était
puis...
vide aux deux tiers, mais rien que ça, c'était quand même de toute façon.
Ouais. C'était super. Ouais. Il y avait une super ambiance. Ouais. Et puis, puis c'est l'Institut du monde arabe, donc il y a toujours une mise en avant un petit peu des langues arabes, de la culture un petit peu. Enfin, en tout cas, ça, même les artistes qui ne sont pas originaires forcément du Maghreb ou de pays arabes, ils vont de leur petit clin d'œil, leur petite blague, ils vont de leur effort de comprendre la culture, le lieu, etc. Et donc bah, ça lui donne une saveur un peu différente des milliers de représentations en plateau qu'il y a à Paris, quoi.
Donc la quatrième édition de cet événement, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, si je compte bien sur mes doigts, ça fait donc 5 jours. Cette année, il y a un thème à respecter, c'est l'amour, les rencontres amoureuses, la vie à deux, les échecs également. Le thème est large, c'est assez facile de s'y glisser.
Oui, c'est assez facile de s'y glisser. Après, ça, je ne sais pas comment les gens vont l'aborder. Il y a des humoristes qui vont sûrement parler de faire leur sketch de base, mais c'est clair.
Ce que je veux dire par là, c'est que dans le sketch, dans la production de base, à un moment ou à un autre, on parle forcément de l'amour, des déceptions amoureuses, de la passion.
Oui, on en parle de près de loin. Et puis ça peut aller, enfin, c'est les relations amoureuses, ça peut être, enfin, c'est l'amour en général. Donc ça peut être aussi l'amour parental, l'amour envers nos anciens, envers... C'est un sujet large et je trouve que l'aborder à un institut du monde arabe, ça lui donne une saveur particulière parce que moi venant du Maroc, en tout cas, c'est un sujet qui est abordé, bien sûr, par les humoristes, par tout le monde, mais avec une certaine forme de pudeur. Et donc, bah, c'est une façon un peu originale d'en parler. Est-ce que j'en parle, moi, d'amour?
Forcément, non.
Un cœur de pierre.
Ce spectacle, effectivement, c'est le tout nouveau.
Ça regorge d'humour. D'humour et d'amour, non, bah, et parce qu'on parle d'amour du pays, on parle d'amour familial. Après, si j'en parle à un moment, je parle d'un copain guitariste avec qui j'ai appris à jouer de la guitare, qui était dans mon quartier au Maroc, et qui me racontait comment il séduisait les filles qu'il avait l'occasion, parce qu'il était animateur dans les hôtels, et donc il rencontrait des touristes. Et donc il parle des filles qu'il rencontrait, comment il les séduisait en leur jouant du clapton. Donc oui,
voilà, vous voilà rassurés, nous voilà rassurés. Vous avez des origines riches, on le souligne à chaque fois. Bon, votre maman est chinoise, votre père franco-marocain, originaire de Fès. Le spectacle que vous allez proposer, c'est votre tout dernier, Nos Nostalgie, un spectacle en derija. Vos souvenirs d'enfance, j'imagine.
Oui, alors c'est un spectacle, c'est pas le dernier spectacle, c'est un spectacle à part. Dédié au Maroc, en fait, parce que je parle en effet le dialecte marocain, le darija dedans, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir exprimer une partie de moi que je ne peux pas exprimer dans mon spectacle, par exemple le spectacle actuel Y, parce qu'il y a des références à mon enfance et des références culturelles plutôt maroco-centrées, tout comme Y aujourd'hui est un peu franco-centré autour de problématiques de société qui parlent, on va dire, aux gens qui habitent en France, et moins aux gens qui habitent au Maroc. Donc j'avais vraiment besoin d'avoir ce deuxième spectacle en plus. Et je parle de mon enfance et de mes vacances dedans, parce que bah, forcément, je vais puiser dans les souvenirs. Moi, ça fait 23 ans que j'ai quitté le Maroc, et donc je prétends le connaître, parce que j'ai passé les premières années de ma vie, mais je prétends pas le connaître parfaitement, et encore moins connaître le Maroc contemporain, parce que j'y vis pas au quotidien. Donc je parle déjà de cette crainte de perdre un peu pied et de plus vraiment connaître le Maroc. Et ça, déjà, cette crainte-là en elle-même est une petite névrose qui est sympa de souligner sur scène. Et après, je parle de mon enfance parce que c'est là que je vais puiser dans les souvenirs. Et donc, je mets beaucoup d'affect et je parle de beaucoup d'anecdotes, de beaucoup de choses par rapport auxquelles j'ai pris du recul. L'éducation que j'ai reçue, moi, par rapport à l'éducation que aujourd'hui je donne à mes enfants. La langue, c'est vrai que moi j'ai appris la langue un peu comme ça sur le tard en jouant au foot dans la rue ou avec ma grand-mère ou ma nounou. Mais là, avec le temps, je me rends compte de la richesse des expressions marocaines et de ce qu'elles veulent dire, ce qu'elles peuvent dire, vouloir dire littéralement, ce qu'elles peuvent exprimer que la langue française, par exemple, n'exprime pas. Et c'est révélateur de traits de caractère, de traits culturels vraiment propres à la culture marocaine. Donc,
vous pourriez prendre un exemple précis?
Par exemple, il y a une expression en darija pour exprimer le fait de ne rien faire. On dit « gels », qui littéralement veut dire « je suis assis ». Donc en fait, quand on peut vous appeler et vous demander qu'est-ce que vous êtes en train de faire, et la personne va vous répondre « gels », je suis assis ». Jamais en France, on va vous appeler, enfin jamais vous allez préciser que vous êtes juste assis. Et ben, cette action de juste être assis, ben, au Maroc, c'est une action et c'est révélateur du fait que prendre le temps, c'est une démarche et c'est une action en soi qui n'a rien de méprisable. Et au contraire, aujourd'hui, dans un monde en particulier, dans les pays occidentaux, on court après le temps. Ben, on voit que c'est très précieux et qu'il y a un retour, notamment au développement personnel, au lâcher prise, ou à des activités comme le yoga, des choses comme ça qui font que voilà, on lâche un peu tout, on lâche le cerveau et on essaie de se recentrer, comme on dit avec des mots très savants. Et c'est juste c'est ce concept de Gals. Et ce Gals, c'est une expression qu'on utilise au quotidien au Maroc.
Vous avez une petite quarantaine d'années, la première moitié passée au Maroc, la seconde, la deuxième en France. Qu'est-ce qui vous manque du Maroc aujourd'hui, quand vous avez cette nostalgie?
Tellement de choses. Ben, les gens avec qui j'ai grandi, mais que je retrouve quand je vais jouer au Maroc, ou quand je vais au Maroc, et qui sont juste, je les retrouve comme si je les avais vus la veille. Les gens, les proches, la famille, bien sûr. Puis cette capacité de naviguer sur deux dimensions temporelles, c'est-à-dire que bien sûr, le Maroc c'est pas le cliché. Il y a une vie moderne. Les gens, en tout cas dans les grandes villes, ont un boulot prenant, ont une vie avec des enfants. La vie est speed, mais il y a une espèce de faculté à activer une deuxième dimension temporelle plus tranquille, plus lente, qui est impressionnante en fait. Et que je n'arrive pas à activer quand je suis en France. Et donc, c'est cette capacité à juste prendre le temps parfois de se consacrer à des choses un peu plus essentielles, les proches notamment, la famille, mais aussi juste s'asseoir, rien faire, prendre le temps de discuter. Après, c'est souvent des madeleines de Proust aussi. Ce qui me manque, c'est des espèces de petits paradis perdus, notamment les vacances. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de passer des vacances en camping sauvage sur des plages désertes. C'est des vacances ce qui me manque en fait, c'est l'ennui. Je m'ennuyais en fait pendant ces vacances-là, ou quand j'étais à Fès et qu'il faisait 48 degrés et qu'on sortait pas. Mais ce temps de l'ennui, je le connais plus en fait. Je sais plus m'ennuyer et c'est vraiment un truc qui est chouette, l'ennui.
Ralentir le rythme.
C'est là d'ailleurs que là, c'est là qu'apparaît la créativité, que se fait la créativité. Je pense que si j'arrive à faire un métier créatif aujourd'hui, c'est parce que je me suis ennuyé. Il y a un moment où...
Et alors vous vivez sur cet ennui? Ça fait des années que vous vivez sur l'ennui que vous aviez quand vous étiez jeune. Vous avez de la réserve.
Pour voir que j'arrive à reproduire cet état peut-être quand je me mets à créer un spectacle. C'est vrai qu'on parle de rien. Et l'ennui, c'est ça, c'est avec rien faire quelque chose.
Voilà, ce spectacle, votre spectacle, Nostalgie, dimanche prochain pour la clôture de Lima Comedy Club à l'Institut du Monde Arabe.
Et il y aura un guest, il y aura Jalil Tijani, qui est un humoriste.
Ah oui, bien sûr.
Un humoriste immense, un des artistes que j'admire le plus dans ce métier. Et il me fait l'honneur de venir faire la première partie. On est très amis et lui, il est en train de créer un nouveau spectacle et il va venir jouer quelques nouveaux sketchs en première partie.
Jalil Tijani, qu'on a eu l'occasion de recevoir dans cette émission et qui marche effectivement très 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 bien au Maroc. Merci beaucoup Karim Duval d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Main de Culture. À bientôt.
Merci, au revoir.
Et c'est ainsi que se referme l'émission. La semaine prochaine, on sera à Tanger. On va vous parler d'un nouveau lieu d'exposition qui vient d'ouvrir au cœur de la ville. Une quarantaine d'espaces différents. C'est assez original, avec autant d'artistes présentés. Et puis la relance d'une institution, la célèbre librairie des colonnes au 54 du boulevard Pasteur. À dimanche prochain, je vous embrasse.
On se voit aujourd'hui, je te dis demain. Je sors de mon lit, il est 15h du matin. J'ai raté ma vie et même mon train. À votre avis, est-ce que je vais bien? On dit que la nuit porte conseil. Comment on fait quand y a le soleil? Je me recouche dès que je me réveille, mais y a cette voix dans mes oreilles. Allez là, te laisse pas crever comme ça. Donne du travail au karma. Garde la main sur le cœur même à bout de bras. Comment te relever si tu tombes pas? Fais de tes failles un combat. Essuie tous tes pleurs, sinon tu te noies. Allez là! Allez là! Mais moi sous vide, je crois que je vais crever. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur de rêver. J'ai mal au bide, à force de penser. Je vis mes souvenirs pour m'en rappeler. Mon propre silence fait du bruit. Pourtant je danse toute la nuit. Je n'ai plus confiance en la vie. pourtant il y a cette voix qui me crie. Allez là, te laisse pas crever comme ça. Donne du travail au karma. Garde la main sur le cœur, même à bout de bras. Allez là, comment te relever si tu tombes pas. Fais de tes failles un combat. Essuie tous tes pleurs, sinon tu te noies. Allez là, te laisse pas crever comme ça. Donne du travail au karma. Garde la main sur le cœur, même à bout de bras. Allez là, comment te relever si tu tombes pas. Fais de tes failles un combat. Essuie tous tes pleurs, sinon tu te noies.